Directeur de recherche au commissariat à l'énergie atomique, physicien, essayiste, notamment des ouvrages sur le temps, sur le vide. Vous êtes aussi un faiseur d'anagrammes ébouriffantes avec Jacques Perissalco. L'on vous doit tous deux, courbure de l'espace-temps, égale superbe spectacle de l'amour. Vous en avez une aussi quant à ce mois d'avril terrible que nous vivons, Étienne Klein.
Je dirais qu'il sera viral.
Et c'est sans rival, comme vous me le disiez tout à l'heure, encore. Étienne Klein, on n'est pas là pour la gaudriole ou pour s'amuser, on est là pour évoquer un tract que vous avez fait paraître aux éditions Gallimard il y a quelques jours, qui s'intitule « Je ne suis pas médecin, mais », dans lequel vous vous inquiétez, vous vous alarmez même d'une forme, vous appelez ça un démagogisme cognitif. Autrement dit, vous avez peur que l'opinion ne finisse par l'emporter sur la connaissance scientifique.
Exactement. Alors l'expression « démagogisme cognitif », je la dois à mon ami Gérald Brummer, qui est sociologue. En fait, j'ai été alerté en regardant des tweets et différents messages sur les réseaux sociaux, de personnalités politiques notamment, qui commençaient leurs propos en disant « je ne suis pas médecin ». C'était une façon honnête d'admettre qu'ils ne sont pas compétents en médecine. Mais curieusement, après, ils expliquaient, comme s'ils étaient des savants, ce qu'il fallait faire, ce qu'il fallait penser à propos de tel ou tel traitement. Et j'ai trouvé étrange le fait de pouvoir dire qu'on ne sait pas, de le faire savoir, et en même temps de faire comme si on savait tout. Alors que les vrais savants sont des gens qui sont capables, d'une part, de dire ce qu'on sait, d'autre part, de dire ce qu'on ne sait pas. Et il m'a semblé que là, il y avait quelque chose qui pouvait engendrer une énorme confusion, alors que nous sommes au contraire dans une période un peu critique, où on a besoin de savoir ce que l'on sait, et aussi de savoir ce que l'on ne sait pas.
À propos de cette confusion que vous évoquez, Étienne Klein, quels seraient les ressorts cognitifs du complotisme? Vous avez sûrement vu ce sondage qui a été publié par le quotidien Le Monde, qui évoque qu'un quart des Français adorent la thèse complotiste selon laquelle le virus, donc le Covid-19, à l'origine de l'épidémie, aurait été conçu par un laboratoire. Qu'est-ce que ça vous inspire, cette envie d'adhérer à quelque chose que la plupart des gens qui y adhèrent savent ne pas être vrai, mais tout de même, cette fantaisie ou ce délire les enchante.
Écoutez, ça me donne envie de relire Nietzsche dans un livre qui s'appelle « Humain, trop humain ». Il y a un chapitre qui n'est qu'une seule page, il est facile à lire, qui s'appelle « L'avenir de la science ». Et Nietzsche, en 1871, décrit exactement ce qui se passe aujourd'hui, à savoir que le goût du vrai, dit-il, va disparaître au motif qu'il procure moins de plaisir. Et en fait, les idées qui nous font plaisir, dont on aimerait qu'elles soient vraies, sont immédiatement considérés comme vraiment vrais, sans qu'on cherche du tout à les vérifier.
Ce que vous êtes en train de dire, c'est qu'il y a aujourd'hui aussi quelque chose de l'ordre de la défiance vis-à-vis de la parole institutionnelle, vis-à-vis de la parole des sachants, qui sont peut-être aussi assimilés à cette fameuse élite décriée.
Oui, absolument. C'est-à-dire que c'est très difficile d'avoir un discours qui fasse autorité. Et je pense que nous payons le fait que dans les différents réseaux de communication circulent à la fois des croyances, des connaissances, des opinions, des commentaires, des avis, des fake news, et que le fait que toutes ces choses qui ont des statuts cognitifs complètement différents circulent dans les mêmes canaux, fait que leurs statuts respectifs, qui sont très différents, s'amalgament. Par exemple, quand on a affaire à une connaissance, on se demande si ce n'est pas la croyance d'une communauté particulière. Et quand on a affaire à une croyance, on se demande si elle ne cache pas en vérité une véritable connaissance. Et cette confusion me semble nocif pour la démocratie, ou plutôt pour la République, parce que la République, c'est l'idée que nous formons en tant que société un milieu dans lequel les connaissances doivent pouvoir circuler librement sans rencontrer d'obstacles. Or, les connaissances, ce n'est pas une affaire de suffrage universel, ce n'est pas une affaire de sondage. Par exemple, si on avait demandé aux gens, notamment aux physiciens, en 1905, de voter pour ou contre la théorie de la relativité restreinte d'Einstein, qui venait d'être publiée, majoritairement, ils auraient voté contre. Et pourtant, c'est cette théorie qui s'est finalement révélée la bonne, en tout cas jusqu'à preuve du contraire, ce qui veut dire que la science est une affaire républicaine, c'est une affaire de tous, en quelque sorte, mais elle n'est pas démocratique dans sa formation. Par exemple, l'efficacité des traitements, c'est une question ouverte. Il faut donc faire des recherches, établir des protocoles, et à la fin, on saura. Et ce que je critique, c'est ceux qui savent avant même qu'on ait fait les expériences en question.
À propos de la démocratie et de la République, lorsque vous voyez Édouard Philippe prendre la parole en étant systématiquement accompagné ou encadré par des scientifiques, est-ce que cela vous rassure ou est-ce que vous avez l'impression que le dirigeant politique, en l'occurrence le Premier ministre, Édouard Philippe, abdique une partie de sa responsabilité au profit de la parole du scientifique et du sachant, qui a une forme de déséquilibre ou d'abdication?
Non, finalement, c'est lui qui décide. Par contre, il essaie de décider en connaissance de cause, en tenant compte de ce qui est su et de l'incertain. Et l'incertain doit être tranché par le politique. Mais ce qui est su et ce qui n'est pas su doivent être dit par les scientifiques.
Étienne Klein, dans ce tract intitulé « Je ne suis pas médecin, mais », vous dites à un moment donné, puis dans un autre texte que vous avez fait paraître aussi, vous évoquez l'épidémie comme un moment qui serait un moment révélateur, de révélation au sens profond du terme, révélation sur nos natures, peut-être révélation au sens collectif, mais aussi intime. Qu'est-ce que vous entendez par là?
Moi, je cite un texte d'Antonin Artaud qui s'appelle Le théâtre et son double, dans lequel il dit que la peste, enfin l'épidémie en général, a ceci de commun avec le théâtre, qu'elle montre les hommes tels qu'ils sont. Il dit d'ailleurs cette formule qui est un peu bizarre aujourd'hui, il dit l'épidémie fait tomber les masques. Sic. Et en fait, en effet, il y a tout un apparat social, il y a toutes sortes de travestissements qui proviennent de nos activités, de nos professions, de notre statut social, sont remis en cause par cette épidémie, par le confinement en tout cas, et c'est comme si notre barycentre existentiel se trouvait déplacé, pour le meilleur et pour le pire.
Lorsque vous entendez des gens dire, j'ai l'impression que le temps dont on déplorait l'accélération depuis des dizaines d'années, depuis la mondialisation en quelque sorte, l'impression que le temps se dilate ou se ralentit, est-ce que le physicien sourit à cette évocation, à ce ressenti?
Je souris, mais avec beaucoup d'affection et de gentillesse. C'est-à-dire que le temps n'est pas du tout modifié par l'expérience du confinement. Ce qui est modifié, c'est notre perception, notre relation au temps. Quand on dit que le temps s'accélère, c'est une question qu'il faut interroger, parce que une minute dure une minute, qu'elle soit une minute de travail, de silence, d'ennui ou autre chose. Par contre, c'est notre perception des durées qui voit sa métrique complètement modifiée par cette expérience. En fait, quand on dit que le s'accélère, ce qu'on veut dire, c'est qu'on est soumis en réalité à une superposition de présents multiples. On travaille, on reçoit des mails, des coups de fil, on est constamment dérangé, il devient difficile de se concentrer. Et aujourd'hui, compte tenu du confinement, notre rapport au temps est sans doute plus épuré et on se rend compte que cette superposition de présents qui d'habitude nous envahit, aujourd'hui a fait une sorte de pause.
Et comme